Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mohamedou Oumfa, pour vous présenter Le Monde d'aujourd'hui, édition du mardi 27 août 2024. Voici le sommaire. La peine de mort requise contre 50 personnes, dont 3 Américains, poursuivis pour tentative de coup d'État du 19 mai en RDC. Au Mali, des groupes armés rebelles reconnaissent la mort de 7 de leurs membres après une frappe de drone de l'armée. Un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique vient d'être élu ce mardi à Brazzaville, selon le service de communication de l'OMS. Il s'agit du docteur Faustine Ndougoulilé, un Tanzanien. L'Ukraine a utilisé ses avions de chasse F-16 livrés par ses partenaires occidentaux pour repousser les dernières frappes russes. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec John Lindon et l'actualité sportive présentée par Yacouba Ouédraogo. Mais pour commencer, voici le journal. À RDC, la peine de mort a été requise ce mardi contre 50 personnes, dont 3 Américains, poursuivis pour la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. Dans son réquisitoire, le ministère public a également demandé au tribunal de prononcer la confiscation de tous les objets ayant servi à la commission des infractions au profit de l'État congolais. Depuis le 7 juin, le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, où sont incarcérés tous les prévenus, juge 51 personnes pour ce que l'armée a qualifié de tentative de coup d'État. Au Mali, les rebelles du Nord ont reconnu la mort de 7 de leurs membres lors d'une frappe de drone de l'armée hier. Selon un communiqué publié ce mardi, l'attaque a visé 2 de leurs véhicules. Nani Talani.
L'armée malienne affirme de son côté avoir détruit le même jour 2 véhicules chargés de matériel de guerre appartenant aux groupes armés terroristes à environ 80 km. Au nord de la localité d'Anéfis. Des frappes similaires ont fait une vingtaine de morts, dont des enfants, dimanche à Tinzawatène, près de la frontière algérienne, selon les rebelles et un élu local. Cette zone a été le théâtre fin juillet d'une lourde défaite des forces maliennes et leurs alliés russes face aux rebelles Touaregs et des djihadistes. L'armée, qui revendique avoir neutralisé une vingtaine d'individus armés, soutient qu'il s'agissait de cibles terroristes. Les rebelles Touareg ont perdu depuis 2023 le contrôle de plusieurs localités du Nord après une offensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal, bastion de toutes les rébellions au Mali et enjeu de souveraineté pour l'État central.
Près de 80 migrants ouest-africains, dont plusieurs femmes et enfants, ont été interceptés au Sénégal quelques heures avant le début d'une tournée ouest-africaine du Premier ministre espagnol, dont le pays est confronté à un afflux de clandestins. 76 candidats à l'émigration clandestine ont été interpellés dans la soirée du lundi 26 août par un patrouilleur de haute mer de la marine sénégalaise, alors qu'ils étaient à bord d'une pirogue à 80 km au large de Dakar, a annoncé la direction des relations publiques des armées. Au Soudan, au moins 20 personnes ont été tuées par des tirs d'artillerie imputés aux paramilitaires des forces de soutien rapide sur un camp de déplacés situé dans la région du Darfour, a annoncé hier un groupe pro-démocratie. Les informations que nous avons reçues jusqu'à présent sur les victimes parmi les résidents du camp de déplacés d'Abou Chouk font état d'au moins 20 morts et 32 blessés, a déclaré lundi dans un communiqué le comité local de résistance d'El Fasher, qui n'a pas précisé quand l'attaque a eu lieu. Toujours au Soudan, au moins 30 personnes sont mortes dans le nord-est après l'effondrement du barrage d'Arbat à la suite d'inondations, a annoncé lundi le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. De fortes pluies ont inondé la région d'Arbat au nord de la ville de Port-Soudan dans l'état de la mer Rouge, provoquant l'effondrement dimanche du barrage d'Arbat. Le Soudan connaît une saison de pluie intense depuis le mois dernier, avec d'importantes inondations, principalement dans le nord et l'est du pays. L'ONU et les États-Unis ont appelé ce mardi les acteurs politiques en Libye à une réunion urgente, une réunion qui vise à désamorcer la crise autour de la Banque centrale et le blocus de la production et des exportations de pétrole. Jean-Roger Billon.
Résoudre la crise de la Banque centrale est une nécessité urgente, a souligné la mission d'appui de l'ONU en Libye, mettant en garde contre un risque d'effondrement financier et économique du pays. Elle a qualifié de décision unilatérale aussi bien celle du Premier ministre de remplacer le gouverneur de la Banque centrale que la fermeture jusqu'à nouvel ordre des gisements et terminaux pétroliers par le camp Haftar, principalement basé dans l'est du pays. L'ambassade des États-Unis en Libye a qualifié cette proposition de voie à suivre pour résoudre la crise entourant la Banque centrale. Outre des pourparlers, l'ONU a demandé aux parties de suspendre les décisions unilatérales concernant la Banque centrale de Libye, garantir la sécurité de ses salariés et lever le blocus pétrolier. Par ailleurs, l'ambassade américaine a déploré des informations préoccupantes faisant état d'arrestations arbitraires et d'intimidations à l'encontre d'employés de la BCL.
La 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique a débuté hier lundi à Brazzaville et va durer jusqu'à vendredi. Lors de cette session, les ministres ont et viennent d'élire un nouveau directeur général pour succéder à la docteure Matidisho Mweti. Il s'agit du Tanzanien, le docteur Faustine Ndugulile. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le gouvernement espagnol a annoncé ce mardi qu'il allait envoyer l'équivalent de 500 000 doses de vaccins dans plusieurs pays d'Afrique centrale afin de faire face à l'épidémie de Mpox. L'Espagne a indiqué à la Commission européenne qu'elle allait faire un don représentant 20% de son stock de vaccins, soit 100 000 ampoules correspondant à 500 000 doses de vaccins pouvant permettre de vacciner jusqu'à 1,5 million de personnes, explique dans un communiqué le ministère espagnol de la Santé, qui ne précise pas quels sont les pays concernés ni à quelle date les vaccins vont être envoyés. Madrid encourage toutefois ses homologues européens à faire don à leur tour de 20% de leur stock.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine a utilisé des avions de chasse F-16 livrés par ses partenaires occidentaux pour repousser les dernières frappes russes, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mardi. Pendant ce temps, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, affirme que la proximité des combats avec la centrale nucléaire de Koursk est un fait grave. John Lindon.
Dans ces attaques massives russes, nous avons déjà détruit des missiles et des drones à l'aide des F-16, a dit Zelensky, répétant aussi que le nombre d'appareils reçus par Kiev n'était pas suffisant. Kiev a annoncé mardi avoir abattu 5 missiles et 60 drones russes au cours d'une seconde nuit consécutive d'attaques aériennes massives visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, qui a fait au moins 4 morts. Le 4 août, le président Zelensky avait déclaré avoir reçu les premiers avions de chasse F-16 après une attente de plus de 2 ans. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a averti ce mardi, lors d'une visite sur place, sur le danger posé par la proximité de la centrale nucléaire de Koursk avec les combats entre les armées ukrainiennes et russes. Une centrale nucléaire de ce type, si proche du point de contact ou d'un front militaire, est un fait extrêmement grave, a-t-il déclaré, au cours d'un déplacement dans la région russe frontalière de Koursk, où les forces ukrainiennes ont lancé une offensive surprise il y a 3 semaines. Raphaël Grossi a affirmé avoir pu visiter les parties les plus importantes de la centrale, qui se trouve à moins de 50 kilomètres de la ligne de front.
L'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir sauvé Kaïd Faran al-Kadi, un bédouin du sud d'Israël, otage dans la bande de Gaza, lors d'une opération complexe dans le sud du territoire palestinien. L'armée et le Shin Bet, le renseignement intérieur israélien, ont sauvé l'otage Kaïd Faran al-Kadi, 52 ans, qui a été enlevé par l'organisation, je cite, « terroriste Hamas » et emmené dans la bande de Gaza le 7 octobre, a déclaré l'armée dans un communiqué. L'armée n'a pas donné plus de détails sur l'opération, invoquant la sécurité des otages, des forces militaires et la sécurité nationale. En France, le président Emmanuel Macron a ouvert ce mardi un nouveau cycle de consultations pour trouver enfin un premier ministre. Des représentants du parti de droite, les Républicains, doivent être reçus demain mercredi, mais ni l'extrême droite ni l'extrême gauche n'ont été conviés. Ces nouvelles discussions interviennent au lendemain du rejet par M. Macron d'un gouvernement du nouveau Front populaire, l'alliance de gauche arrivée en tête des législatives, et de sa candidate Lucie Castet au poste de premier ministre. Le président a mis en avant la stabilité institutionnelle pour écarter cette option. Au Venezuela, le candidat de l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet, Edmundo González Urrutia, ne s'est une fois de plus pas présenté à sa convocation alors qu'il était cité à nouveau à comparaître ce mardi par le parquet dans le cadre d'une enquête pour usurpation de fonction. Vivant dans la clandestinité depuis 3 semaines, M. González Urrutia était attendu au ministère public à 10h local, 14h GMT.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec John Lyndon.
Au Gabon, Digitax porte ses fruits d'après Financial Afrique. Selon des données publiées par le ministère gabonais de l'économie, la Direction générale des impôts a collecté 258 milliards de francs CFA de recettes fiscales grâce à Digitax. Digitax est une plateforme qui facilite le paiement en ligne des impôts et taxes par les grandes et moyennes entreprises. Le milliardaire nigérien Aliko Dangote a de nouveau perdu son titre d'homme le plus riche d'Afrique au profit du magnat sud-africain des produits de luxe, Johann Robert, souligne l'agence Ecofin, qui s'appuie sur les classements de Forbes et Bloomberg. Le patron de Dangote Group occupe le 186e rang mondial avec une fortune estimée à près de 11,4 milliards de dollars, après avoir perdu plus de 486 millions de dollars ces 3 derniers jours. La balance commerciale de l'Algérie a affiché un excédent de 3,75 milliards de dollars durant les 7 premiers mois de 2024. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations. Selon l'agence Ecofin, la balance commerciale de l'Algérie enregistre régulièrement des excédents depuis la montée des prix des hydrocarbures, qui représente environ 93% du total des exportations du pays.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
L'Allemand Bruno Labbadia, nommé sélectionneur du Nigeria.
Oui, l'annonce est faite par la Fédération Nigériane de Football. Bruno Labbadia, 58 ans, succède au Nigérian George Afinidi, pourtant nommé fin avril. Mais ce dernier a été renvoyé pour mauvais résultats après un match nul contre l'Afrique du Sud, 1-0, et une défaite face au Bénin, 2-1 en juin dernier. Ces 2 derniers résultats laissent les Super Eagles en très mauvaise posture dans le groupe C des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, avec seulement 3 points pris en 4 matchs. Le technicien allemand va diriger d'abord les coéquipiers de Victor Osimhen contre le Bénin et le Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 le mois prochain. Le Nigeria accueille le Bénin à Ouyo le 7 septembre avant de se rendre au Rwanda 3 jours plus tard. Bruno Labbadia est un ancien attaquant international allemand, notamment passé par Kaiserslautern et le Bayern Munich. Il a ensuite entraîné plusieurs clubs de Bundesliga comme Stuttgart, le Bayer Leverkusen et Wolfsburg, sans remporter de titre.
Dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN, le Cameroun accueille la Namibie le 7 septembre. Mais dans quel stade? C'est la grande question.
Eh oui, après la bataille du sélectionneur place à celle des stades, la Fédération camerounaise de football avait souhaité initialement jouer au stade de la réunification de Douala, avant de se rabattre sur le stade Roundé Adjia de Garoua, ce qu'a accepté la CAF. Mais d'après le site d'information camerounais Actu Cameroun, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs a notifié à la FECAFOOT la non-disponibilité de ces 2 enceintes. D'après Actu Cameroun, lors d'une réunion vendredi dernier, le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi, a indiqué que ce match se jouera au stade Omnisport de Yaoundé. Comment comprendre ces problèmes liés au choix du stade pour ce match Cameroun-Namibie? Suivant les explications d'Élise Kenembeni, journaliste à Time News Group.
Les tensions montent parce qu'il y a la FECAFOOT qui souhaite que le match se joue au stade Roundé Adja de Garoua. Il y a le ministère de Sport et l'Éducation Physique qui est justement la tutelle de la FECAFOOT qui souhaite que le match se joue plutôt à Yaoundé, tout comme l'ONIES, l'Office national des infrastructures et d'équipements sportifs au Cameroun. Alors, et qui est justement piloté par l'ancien lion indomptable Joseph Antoine Bell et qui a d'ailleurs justement à travers un communiqué après la réunion au ministère des Sports et de l'éducation physique signifiait que le match ne pouvait pas se jouer ni à Japoma, au vu du climat actuel, parce qu'à Douala, il pleut hein, tous les jours. Et il a également signifié le fait que le stade Amadou Ahidjo, qui est justement basé à Yaoundé, était mis à disposition pour le match du 7 septembre. Alors, la FECAFOOT également, qui n'attend pas hein, justement se laisser marcher dessus, avec son président Samuel Etofis, que vous connaissez très bien, ils exigent justement que le match se joue du côté de Yaoundé Adja.
Élise Kenembeni, journaliste à Time News Group.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumpa, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, l'évêché de Kaya exprime une profonde douleur face à la tragédie d'une envergure inédite qui a touché Barsalogo. Samedi, plus de 100 civils ont été tués lors d'une attaque armée. Dans une lettre pastorale, l'église appelle les fidèles à ne pas succomber au désespoir et encourage la communauté locale à observer une journée de deuil diocésaine. Éric Manirakiza a joint Mgr Théophile Naré, évêque de Kaya.
Donc, il était normal que j'invite l'ensemble des chrétiens du diocèse à compatir à la souffrance de leurs frères et sœurs qui ont subi cette tragédie de Barsalogo. Ceux qui sont décédés, que nous puissions ensemble invoquer le Seigneur pour leur repos éternel. Les blessés, que nous puissions prier pour eux et les secourir. Et tous ceux qui ont été meurtris par cette tragédie, que nous puissions leur manifester notre proximité, notre solidarité, notre compassion. C'est cela qui m'a motivé à écrire ce message pastoral.
Vous parlez d'une tragédie d'une ampleur sans précédent dans votre région. Ce n'est pas la première, mais vous demandez à vos fidèles de garder courage.
C'est un message qui invite, oui, à l'espérance. Au-delà de ce que nous avons vécu, nous ne devons pas baisser les bras parce que la vie continue. La vie continue et donc si nous ne voulons pas que ce qui est arrivé se répète, il nous faut vivre et agir de telle sorte que de tels drames soient évités à l'avenir.
Vous dites également dans votre message que vous ne pouvez pas garder silence par rapport à ce qui s'est passé.
Mais parce qu'il y a en nous quelque chose qui crie devant la souffrance, mais notre humain manifeste sa peine. Il est donc normal que devant ce qui est arrivé, nous manifestions notre douleur, notre tristesse. Mais ce que je veux dire, c'est que cette tristesse ne doit pas nous amener à être abattus au point de ne plus pouvoir agir. Parce que si nous n'agissons pas, justement, ce qui nous a conduit à ce désastre risque de se reproduire.
Est-ce que vous auriez le bilan définitif des personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque?
Non, je ne peux pas vous donner ce renseignement parce que je n'ai pas les moyens d'avoir de telles informations. Et je pense que ceux qui sont chargés de faire de telles enquêtes feront leurs enquêtes et qui pourront nous dire ce qu'ils auront découvert. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes touchées, ça oui, mais nous dire combien ils sont, je ne saurais pas vous le dire. Je n'ai pas les moyens de faire une telle investigation et de vous donner une réponse.
Vous avez parlé aux autorités pour prévenir ce genre de tragédie?
Les autorités étaient prévenues, ce n'était pas à moi de les prévenir. Les autorités étaient prévenues et elles prennent leurs responsabilités. Moi aussi, je prends les miennes par rapport à ma communauté des fois. Je ne suis pas le gouverneur de la région du Centre-Nord, je suis simplement le directeur de Kaya. Et je ne pense pas que les autorités politiques comptent sur moi pour être renseignées sur ce qui s'est passé là-bas.
C'était Mgr Théophile Naré, évêque de Kaya. Il a été joint par Éric Manirakiza. Rappelons que vous pouvez écouter les programmes de VOA Afrique à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur 102.4 FM. Au Cameroun, le gouvernement américain finance plusieurs projets dans le secteur de la santé à travers l'Agence américaine pour le développement international, USAID. L'un de ces projets, intitulé « Accroître la disponibilité des produits de santé au niveau des sites », est mis en œuvre depuis décembre 2023, avec comme objectif un approvisionnement durable en médicaments contre le VIH-SIDA et l'amélioration des délais de livraison dans les formations sanitaires. Plus de détails dans ce reportage d'Emmanuel Jultap.
Douala est la deuxième ville du Cameroun après Yaoundé, où l'on retrouve le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH-SIDA.
J'ai constaté que je viens à mon rendez-vous, les médicaments sont toujours disponibles.
Ce témoignage est d'une jeune dame atteinte du VIH depuis plus de 10 ans. Elle est filmée à visage non découvert.
Je lui ai posé des questions à la dame qui me suit, mais je constate que à chaque fois maintenant je viens, j'ai mes 3 mois, quand je demande 6 mois, il y a, et pourtant avant il n'y avait pas, elle m'a fait comprendre que non. Et un partenaire qui est là maintenant, le projet ISAC, c'est lui qui veille à ce qu'il y ait des médicaments. Ça nous encourage, nous les patients, à continuer et à rester sous traitement et avoir une charge virale indétectable.
Des camionnettes d'une capacité de 7 tonnes, comme celle-ci, assure la livraison des intrants et médicaments contre le VIH-SIDA dans le cadre du projet ISAC. Ce matin est jour de ravitaillement de cette formation sanitaire privée située au quartier Lukbaba à Douala. Ici, 294 patients sont sous traitement.
Dans le cadre du projet ISAC, nous avons reçu comme médicament aujourd'hui les intrants VIH, parmi lesquels nous avons une partie pour la prise en charge pédiatrique et une autre partie pour la prise en charge adulte, sans oublier les tests de dépistage. Le projet ISAC a apporté un plus effectivement dans notre formation sanitaire, surtout pour les patients, ils ont une possibilité plus facile de s'approvisionner dans notre formation sanitaire.
Ailleurs, comme dans ce centre médical d'arrondissement de l'État, 315 patients sont sous antirétroviraux. Le projet du gouvernement américain a positivement impacté les patients qui résident loin du centre médical.
Il y avait les années antérieures, c'était très difficile pour eux de venir se ravitailler. Ils étaient soit absents, soit perdus de vue. Mais depuis que le projet est sur pied, ils font peut-être 6 mois et ils viennent se ravitailler dans de très bonnes conditions parce qu'ils vont se retrouver en train d'avoir 6 mois de traitement, 8 mois de traitement. Et pourtant, ce qui n'était pas le cas dans les années antérieures, on leur donnait parfois 2 semaines de traitement.
C'est depuis décembre 2023 que le projet ISAC est mis en œuvre en faveur de 58 formations sanitaires de la région de littoral. Depuis 1 an et demi, le projet s'étend sur les 10 régions du Cameroun.
Le projet ISAC est financé par PEPFAR, le plan d'urgence du président américain pour lutter contre le VIH-SIDA, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui est USAID, et est mise en œuvre par un partenaire local, qui est le Fonds régional pour la promotion de la santé du littoral. C'est un projet qui a une durée de 3 ans. Il a pour but d'assurer la disponibilité continue des produits de santé au dernier kilomètre de la région du littoral à travers un système de chaîne d'approvisionnement durable.
Le Fonds régional pour la promotion de la santé est le partenaire local du projet ISAC. Cette structure du ministère camerounais de la santé publique coordonne la distribution des médicaments contre le VIH-SIDA et les programmes de santé financés par les États-Unis dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose.
Chaque mois, en 3 jours, on arrive à livrer les médicaments sur site, c'est-à-dire au niveau de la formation sanitaire. Donc on couvre l'ensemble des sites de la région littorale. Donc c'est un projet qui nous permet non seulement de rendre disponibles le produit à temps, à des délais très courts, mais également de suivre l'utilisation de ce produit pour qu'il n'y ait pas de perte et d'accompagner les gestionnaires de ce produit à mieux gérer ce produit et à mieux communiquer les informations et d'intervenir à temps.
En janvier 2024, 50 à 60% des financements annuels des projets de l'USAID au Cameroun étaient orientés vers la santé et l'assistance humanitaire. Emmanuel Jumtap, pour VOA Afrique. Voilà.
119 ans après la publication du premier dictionnaire allemand EV par un chercheur allemand, un dictionnaire EV français voit aussi le jour. C'est l'œuvre d'un Togolais et le document a la particularité de relancer le débat sur l'importance de la langue maternelle dans les processus d'apprentissage en Afrique. Reportage de notre correspondante à Lomé, Amena Signon.
En tout, 120 000 mots, expressions, locutions et termes français traduits dans la langue évé ont été répertoriés dans cet ouvrage de 560 pages par le chercheur togolais Kuizian Baba. Fruit de 10 années de recherche, ce dictionnaire est une contribution à la promotion de l'évé, l'une des langues les plus parlées au Togo et aussi dans le golfe de Guinée. L'auteur a mis l'accent sur la lexicologie, la lexicographie évé et la philologie d'anciens documents et textes évé pour concevoir son nom.
J'ai pris en compte la géographie. La géographie, puisque ça parle du peuple évé, la langue évé, c'est-à-dire l'ère culturelle évé. Donc, c'est du Togo jusqu'au Ghana, une partie même du Bénin aussi. Et donc, à cet aspect-là, ensuite, j'ai aussi travaillé sur les variantes lexicales, les dérivés de l'évé. Et après, sur le plan scientifique aussi, il y a plusieurs notions, plusieurs concepts qui ont été développés.
Au-delà de l'objectif d'enrichissement de la langue évé, l'ouvrage de Kuizian Baba suscite le débat sur l'enseignement de la langue maternelle dans les écoles. Les spécialistes de l'éducation estiment l'usage de la langue maternelle essentiel pour améliorer les acquis de l'apprentissage et les performances scolaires. Ils précisent que c'est un facteur majeur d'inclusion et d'apprentissage de qualité. Cependant, la triste réalité est qu'en Afrique subsaharienne, en l'occurrence, les systèmes scolaires mettent plus l'accent sur l'enseignement dans les langues étrangères.
Oui, c'est le gros défi de beaucoup de pays africains, hein, dont le Togo. Depuis les indépendances, il y a toujours cette volonté exprimée et maintes fois d'arriver à faire de nos langues nationales des langues d'enseignement. Parce qu'il est connu, avec UNESCO et d'autres acteurs, que l'enseignement ne réussit bien que dans les langues de socialisation des élèves. Et en partie, nous savons que les faiblesses de nos systèmes scolaires, là, c'est lié aux langues d'enseignement.
L'autre défi pour asseoir une langue d'enseignement est de concevoir des manuels didactiques qui reflètent les réalités socioculturelles des apprenants, une problématique à laquelle répond ce dictionnaire. La démarche vise à encourager l'adoption de politiques linguistiques et éducatives intégrées.
Nous sommes plus de 5 millions à parler, même 7 millions à parler évé, du Togo jusqu'au Ghana. Et même si on ajoute même le Bénin, nous avoisinons 10 millions. Donc c'est grand, c'est grand. Alors que nous n'avons pas nos propres manuels scolaires. Voilà. Donc nous, notre ambition, c'est de faire en sorte que nos réalités soient prises en compte sur le plan scientifique, sur le plan sociologique, anthropologique.
La langue est le premier marqueur de l'identité d'un peuple, d'où l'importance de s'approprier et de valoriser les langues maternelles africaines. Amina Signon pour VOA Afrique, Lomé.
Parlons maintenant d'une Espagnole d'origine malienne nommée Adiarato Iglesias. Lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, elle ne savait pas qu'elle avait remporté une médaille d'or aux 100 mètres et une d'argent aux 400 mètres T13 réservée aux athlètes ayant une déficience visuelle jusqu'à ce qu'on le lui dise. À la veille de l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, Nathalie Barge nous parle de cet athlète pas comme les autres.
L'athlète espagnole Adi Iglesias, née au Mali, est atteinte d'albinisme, une maladie génétique qui inhibe la production des molécules de mélanine pigmentant la peau, les cheveux et les yeux. Sa perception visuelle est altérée à 90%, ce qui lui donne une vision de 20% avec des lunettes correctrices épaisses.
Non, je ne sais rien quand on cruce la meta, parce qu'au final.
Je ne sais rien quand je franchis la ligne d'arriver, car je n'ai pas de vision périphérique et je ne regarde pas parce que je suis très concentrée sur la compétition. Dans ce cas, c'est vrai qu'ils me disent toujours quand j'arrive, Adi, tu es arrivée la première ou deuxième ou quelque chose comme ça. C'est aussi vrai que parfois on le devine par le sentiment qu'on éprouve.
Adi Iglesias, qui arbore un tatouage du logo de Tokyo 2020 sur son poignet, s'attend à recevoir un nouveau pour Paris 2024. Au Japon, elle n'avait pas pu avoir sa famille au stade en raison de la pandémie de coronavirus. Elle était donc très excitée de voir sa mère adoptive, Lina, dans la capitale française. Lina Iglesias est restée confuse à l'idée de voir une nouvelle victoire de sa fille.
Pour moi, ce serait très excitant, mais vous savez, je ne pense pas que ce serait beaucoup plus que je ressens à chaque fois que je la vois gagner ou courir. Parce que quand je la vois courir, je ne sais pas, j'ai vu des courses.
Les parents biologiques maliens d'Adi ont décidé de l'envoyer en Espagne quand elle avait 11 ans pour éviter qu'elle ne subisse des attaques liées à son albinisme. Après avoir passé 2 ans dans un refuge pour enfants à Logroño, dans le nord de l'Espagne, elle a été adoptée en 2013 et a déménagé à Lugo.
Je
suis allée aussi loin que je le voulais, vraiment, et je le dis toujours, et les gens me disent, mais ce sont les Jeux paralympiques à Paris cette année, et ce n'est pas que je m'en fiche, car je suis encore là pour ça, mais j'ai déjà eu ce à quoi tout athlète aspire, c'est-à-dire une médaille, et pas seulement une, mais deux. Mon rêve s'est donc réalisé, maintenant je me fixe des objectifs.
Merci d'avoir écouté Le Monde aujourd'hui, que vous pouvez retrouver sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt.